20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. C'est l'un des moments forts de cette année forêt dont on commémore le centenaire de la disparition, la publication chez Sony de l'intégrale de son œuvre pour piano, une fascinante intégrale que l'on doit à Lucas de Bargue. Il sera justement à notre micro ce soir pour nous faire partager son amour pour l'univers foréen. Avant cela, quelques autres nouvelles du monde musical. L'Opéra du Rhin à Strasbourg déménagera au Palais des Fêtes en 2027, tandis que se tiendront les travaux de rénovation du théâtre municipal qui l'abrite. Alors, afin d'accueillir des spectacles lyriques, le Palais des Fêtes fera également l'objet au préalable de travaux nécessaires à un tel redéploiement, nous annonce-t-on. Péléas et Mélisande de Debussy à l'affiche de l'Opéra Royal de Liège dès ce dimanche et jusqu'au 23 avril. Une production confiée au metteur en scène André Barbe et Renaud Doucet, créée il y a 4 ans à Parme. Une production qui s'inspire de tableaux d'Arnold Böcklin et fait référence au spiritisme, le spiritisme pour lequel Debussy avait lui-même une fascination. Pierre Dumousseau sera dans la fosse avec Lionel Lott dans le rôle de Péléas. Nina Minassi en Mélisande ou encore Simon Kinleyside dans le rôle de Golo. Les prochaines masterclass publiques de l'Académie Philippe Jaroussky se tiendront la semaine prochaine du mardi 16 au jeudi 18 avril de 15h30 à 19h30 à la scène musicale. Des masterclass animées par Philippe Jaroussky, Cédric Tiberghien, Anne Gastinel et Nemanja Radulovic. Alors vous pouvez y assister gratuitement sur inscription via le site de l'Académie Jaroussky. Et cette semaine sera clôturée par un concert de musique de chambre vendredi 19 à 19h, réunissant l'ensemble des jeunes talents.
Laure Maison sur Radio Classique.
C'est un grand voyage, un fascinant voyage que nous convie Lucas de Bargue, un voyage au cœur de l'âme foréenne à travers l'intégrale de son œuvre pour piano, plus de 4h30 de musique qui nous permettent de découvrir la richesse de son écriture pour piano. Une véritable philosophie de l'écriture même, nous dit Lucas de Bargue, à la fois sensuelle et cérébrale. Lucas de Bargue qui est notre invité ce soir, bonsoir.
Bonsoir Laure.
Vous parlez d'une musique sensuelle et cérébrale, ce qui veut dire que on n'a pas forcément un rapport immédiat avec cette musique, la musique de forêt. Il faut prendre du temps, il faut réfléchir pour la comprendre, pour la saisir.
Alors c'est ce qui a été très excitant pour moi en travaillant d'abord toute cette musique, puis en l'enregistrant. C'est la dimension initiatique qu'il y a dans cette musique. On a effectivement l'impression de ne pas pouvoir tout saisir d'emblée. Et même quand on connaît bien, on découvre encore de nouvelles choses. C'est valable pour tous les compositeurs, mais particulièrement pour Fauré. On dirait qu'il semble qu'il ait pris plaisir à faire de ses pièces des énigmes musicales. Alors, ça pose certaines questions, parce que le répertoire de concert qui est attendu habituellement, c'est plutôt un répertoire spectaculaire, où justement les émotions vont pouvoir déborder. Il y a parfois une dimension dans certains répertoires presque tonitruante, très spectaculaire. Et l'univers foréen, on va pas dire qu'il est étranger à ce type d'émotion, parce qu'il y a des manifestations de rage, de violence, de passion dans ses œuvres, mais ça ne se manifeste pas de la façon la plus immédiate, comme vous le disiez. Effectivement, ça m'a frappé en faisant la découverte de ce corpus, à côté duquel j'étais passé pendant des années. Je connaissais un peu les mélodies et la musique de chambre, pour lesquelles Fauré est réputé comme un grand compositeur depuis longtemps, mais en revanche, son corpus pour piano, je pense qu'il est encore très largement méconnu. Peut-être en raison de ses difficultés à l'approche, mais en fait, je trouve que c'est comme peut-être on peut penser à des espèces de fleurs, à des espèces de roses dont il faut prendre soin, qui sont un peu capricieuses. Et en fait, il y a un caprice dans la musique de Fauré. C'est vrai que ça demande du soin. Je dirais que pour le répertoire le plus connu, pour le répertoire pour Chopin, pour Mozart, il y a presque un besoin de déconstruire pour pouvoir reconstruire. Avec Fauré, il n'y a pas encore ce besoin de déconstruire, parce que il n'y a pas vraiment une vraie tradition d'interprétation foraine qui ait poussé vraiment les choses suffisamment loin pour qu'il y ait à déconstruire. Je dirais qu'il y a encore tout à construire dans l'interprétation foraine.
Mais c'est ça qui est passionnant en même temps. Alors vous nous offrez l'intégrale de l'œuvre pour piano de Forêt, Lucas Debarque, et vous avez choisi de l'enregistrer, en tout cas de la publier dans l'ordre chronologique, ce qui nous permet d'apprécier l'évolution de son langage que l'on va évoquer justement avec vous ce soir. Vous débutez avec ces premières pièces qui sont empreintes de romantisme, qui sont issues des romances sans parole de Mendelssohn, et en même temps, comme vous l'écrivez, puisque vous commentez chacune de ces pièces, le livret qui accompagne cet enregistrement est passionnant, vous parlez des harmonies singulières que l'on peut percevoir dès le tout premier opus pianistique de Forêt, qui paraît pourtant si simple, presque naïf.
Effectivement, Forêt assume pleinement l'héritage de Mendelssohn, mais aussi de Schumann. Ce sont des partitions qu'il a découvertes à l'école Niedermeyer, où il a étudié, où Saint-Saëns était son professeur de piano. Ils sont restés très amis, c'est une amitié magnifique de 60 ans, malgré leur divergence esthétique, parce que là où Forêt était curieux de l'émergence de la modernité musicale, Saint-Saëns était beaucoup plus rétif. Ils sont quand même restés amis, et la correspondance est incroyable, parce qu'ils s'appellent mon gros chat, mon gros chaton. Enfin, c'est incroyable de voir ces deux génies de la musique, en fait, se parler comme des amis vraiment très proches.
Parce qu'on a une image assez sérieuse de...
Bien sûr. Non, c'est fantastique là-dessus. Mais pour revenir à l'école Niedermeyer, cette école avait dispensé un enseignement particulier. Bon, c'était une école religieuse. Et il y avait une approche, justement, de la musique d'église, notamment des modes ecclésiastiques. Disons que le langage tonal de base joue sur les modes majeurs et mineurs. Et en fait, les modes ecclésiastiques apportent d'autres richesses. Il y a certaines libertés qui sont prises avec des dissonances. Et Forêt a eu ça dans sa formation dès le départ. Et dès les premières œuvres, je pense aux Cantiques de Jean Racine ou aux Romances sans parole, on a effectivement un jeu sur certaines dissonances assez inhabituelles, même dans la langue romantique, qui cherchait aussi des dissonances. Il y a des dissonances chez Schumann, beaucoup, chez Mendelssohn. Mais Forêt a un traitement de la dissonance vraiment particulier. On sent une audace naturelle chez lui. Alors, ça se passe en douceur. Moi, j'aime bien utiliser pour Forêt la notion de doux révolutionnaire. C'est pas un révolutionnaire tapageur. C'est un révolutionnaire qui passe par la subtilité, l'ambiguïté et la douceur.
Thank you.
La première des romances sans parole, opus 17 de Gabriel Fauré, première pièce de ce magnifique coffret de 4 CD, l'intégrale de la musique pour piano de Fauré, par Lucas Debargue, qui est notre invité ce soir sur Radio Classique. On parlait donc déjà de l'étrangeté, des dissonances fauréennes que l'on peut percevoir dès ses tout premiers opus pour le piano. Ces dissonances, ces harmonies si complexes, parfois étranges, qui vont évoluer tout au long de sa carrière, puisque durant ses quelques 60 ans de carrière, il écrira pour le piano. Comment est-ce que son langage, comment est-ce que ses harmonies, surtout, vont-elles évoluer au fil des ans ?
Alors, j'aime bien faire un parallèle, sûrement inattendu, entre Fauré et un autre compositeur qui a majoritairement écrit pour le piano, c'est Scriabine. Parce que les deux sont partis d'un idiome romantique hérité de Chopin, de Schumann, de Mendelssohn. On sent dès les premières œuvres qu'ils ont écrites pour piano, des tendances, en fait une attraction pour certaines harmonies, certaines irrésolutions, certaines la volonté de pouvoir perdre l'auditeur pour mieux le retrouver ensuite, chacun à leur manière. Et en fait, on perçoit, dans l'évolution d'un opus à l'autre, en fait une conquête d'un langage toujours plus personnel, toujours plus poussé. Je trouve qu'ils ont beaucoup en commun, parce qu'ils n'ont jamais complètement quitté l'univers de la tonalité, mais poussé dans des zones voilà, où l'étrangeté, ou de certaines couleurs, en fait. Moi, ce qui me frappe, c'est je trouve quelque chose d'assez héroïque dans cette entreprise personnelle d'un créateur d'aller toujours plus loin dans l'exploration de sa langue, de la manière dont il va parler la musique. L'évolution du langage de Fauré est absolument passionnante, et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai choisi de disposer les pièces par ordre chronologique, c'est pour donner à l'auditeur, faire vivre à l'auditeur aussi cette expérience. Et il y a aussi une autre donnée, en fait, en ce qui concerne Fauré, c'est sa surdité, qui est un type de surdité particulier, qui n'est pas celle de Beethoven. Il avait en fait un problème, une surdité avec une affection neurologique. Il entendait les intervalles décalés, où il avait en fait une déformation des intervalles. Il n'entendait pas les bonnes hauteurs. Donc il faut imaginer la souffrance que c'était pour lui. Le fait d'être encore plus enfermé en fait dans son monde intérieur, ça l'a amené aussi, son écriture, on observe ça dans les pièces de la fin, il se concentre plutôt sur le milieu du clavier. Comme si, en fait, il avait voulu un peu se mettre dans la zone où il y avait le plus de chaleur, où il pouvait le plus entendre, en fait, le plus distinctement possible les sons. Voilà, donc il y a l'affection de cette surdité, l'aventure intérieure. Moi, j'aime bien penser, et ça, je l'ai noté dans le livret aussi, bon, c'est complètement hypothétique, hein, c'est sans doute un fantasme d'amoureux de la musique de Fauré, mais il a écrit un seul opéra, Pénélope, et le fait que ça soit l'histoire d'Ulysse m'interpelle, parce qu'en fait, Ulysse, c'est le voyageur qui ne cesse en fait de changer au gré des péripéties de destination, et qui est tout, donc le retour à Ithaque est sans cesse reporté. Mais il arrive, et à la fin, la justice est faite, et en fait, on revient à la maison. Et j'aime faire ce parallèle avec la musique de Fauré, de voir un petit peu Fauré comme un Ulysse qui, en fait, nous perd pour toujours revenir quand même à la maison de la tonalité, malgré toutes les aventures, toutes les mésaventures qu'on aura pu rencontrer en chemin. C'est là que Fauré est toujours un héros romantique, au fond. Mais ça n'est pas le héros listien, ça n'est pas le héros wagnérien. C'est l'aventure intérieure. C'est une aventure, finalement, philosophique et spirituelle aussi.
Mais en même temps, sa musique, elle n'est pas narrative, elle n'a pas de titre, elle ne suggère pas, comme Debussy, par exemple, des atmosphères particulières. Comment fait-on, Lucas Debargue, pour donner, justement, à chacune de ces pièces leur caractère, alors que, finalement, le compositeur nous laisse que peu d'indications?
Alors, effectivement, Fauré n'a pas été influencé par cette vague, cette tendance du figuralisme qu'on trouve chez Debussy, qu'on trouve chez Ravel, chez Falla, chez Moussorgsky, même avant, le fait de vouloir représenter quelque chose avec de la musique et se rapprocher des arts visuels. Fauré n'allait pas dans cette... C'est ça qui me passionne chez lui, c'est qu'en fait, il faisait face à la modernité, mais de façon intérieure, en voulant garder une approche de la musique comme de quelque chose d'assez pur, d'assez austère, finalement. C'est ça qui est paradoxal chez lui, c'est qu'il a une façon très pure de voir la musique, mais en même temps, il y a toujours ce charme. Et moi, j'aime bien la polysémie du mot charme, comme jeter un sort, être sous le charme de... C'est pas simplement c'est charmant, c'est aussi le fait d'être hypnotisé, d'être ensorcelé. Et il y a ça dans la musique de Fauré. Il est contemporain de Mallarmé, il est contemporain de ces poètes qui allaient exploiter ces saveurs un peu empoisonnées. On trouve ça dans sa musique. C'est pas non plus un hasard qu'il ait choisi, avec son éditeur, les appellations de Nocturne et de Barcarolle, parce qu'il y a des motifs, mais qui sont pas tant des motifs visuels que des motifs philosophiques. Alors ça, ça a été traité par Vladimir Yankelevitch avec Maestria, le motif de l'eau et le motif de la nuit. Ce ne sont pas des pièces qui représentent l'eau, qui représentent la nuit. De la même manière que Debussy va le faire, par exemple, où on va avoir des sensations, on va vraiment avoir l'impression, quand on écoute la mer, de voir des mouvements de vagues. Ça va pas être ça avec Forêt. En fait, il va exploiter le motif de l'eau comme un motif philosophique, un peu comme Héraclite. On se baigne jamais deux fois dans la même eau. Donc, il y a cette continuité dans les pièces de Forêt, dans les Barcarolles. On a l'impression qu'il y a un débit qui ne s'arrête pas. Il y a un jeu sur ce rythme continu. Et le motif de la nuit, la nuit, c'est un motif poétique, philosophique aussi de le sommeil. Qu'est-ce qui se passe dans le sommeil? Les rêves, les cauchemars, l'état un peu intermédiaire entre la veille et le sommeil, qui est traité par Proust, qui était un contemporain de Forêt et qui adorait la musique de Forêt. C'est pas un hasard pour moi. Dans tout ça, cette ambiguïté, quand le début de la recherche, à la recherche du temps perdu, où on voit en fait le narrateur être pris entre le sommeil et la veille, pour moi, cet état intermédiaire, cet état ambigu, où on ne sait pas si c'est le rêve ou la réalité, c'est un motif traité par Forêt. Donc, il y a quand même une large place pour l'imagination, mais ça n'est pas une imagination qui va se baser vraiment sur des images précises. Ça va plus être de l'ordre d'une sorte de cheminement philosophique.
Thank you.
La cinquième barcarolle de Forêt sous les doigts de Lucas de Bargue, un nouvel extrait de cette intégrale de l'œuvre pour piano de Forêt qu'il vient d'enregistrer pour Sony. Lucas de Bargue qui est avec nous ce soir sur Radio Classique. Cette cinquième barcarolle, elle porte l'angoisse du compositeur.
Alors ça, le parallèle entre ce que vivait le compositeur et ce qu'il a écrit, c'est quelque chose de passionnant. Moi, je change beaucoup d'avis là-dessus. Là, en ce moment, je suis plutôt d'avis que il faut se méfier des liens faits trop vite entre la biographie et l'œuvre. Si on prend l'exemple de cette cinquième barcarolle, qui est en effet empreinte d'angoisse et même de sauvagerie, hein, on a vraiment des fortissimo dans cette pièce qu'on trouve rarement chez Forêt. Elle a été écrite en même temps que le sixième nocturne, qui pour le coup est une œuvre de sérénité. Et ce qui est extraordinaire avec l'art, c'est que je pense que la vie intérieure d'un artiste peut toucher à la fois au désespoir et à la fois à l'énergie la plus solaire qui soit en même temps.
Alors justement, c'est toute la richesse, toute la complexité, toute la singularité de ce langage foréen pour le piano. Vous les soulignez grâce à ces couleurs particulières, Lucas de Bargue, que vous faites ressortir dans cet enregistrement. Vous avez enregistré ces pièces sur un piano particulier, un piano original. C'est un piano conçu par Stéphane Polello, qui est un petit peu plus touche que les pianos traditionnels, mais surtout qui a des cordes parallèles qui permettent justement de créer des couleurs particulières, de faire ce travail sur le son.
Alors, ce qui a été passionnant dans cet enregistrement, c'est vraiment de travailler main dans la main avec Stéphane. On était vraiment dans l'expérimentation, dans le fait de peser telle ou telle chose, d'ajuster telle ou telle chose. On a vraiment pris le temps de redéfinir des tempi, de redéfinir de certains réglages du piano. Ça a été passionnant parce qu'en fait, il faut être prêt à repartir de zéro avec cet instrument. C'est-à-dire, si on arrive là avec ses réflexes, les réflexes qu'on a sur les pianos de concert, on est de toute façon complètement perdu avec cet instrument. Il faut être prêt à vraiment rencontrer un personnage totalement inconnu avec ce piano. L'expertise de Stéphane n'est pas à remettre en question, hein, c'est un piano qui est merveilleusement conçu, mais tout est différent. Il y a la façon d'approcher le clavier. C'est un instrument qui sonne tout seul. Il y a rien à forcer. Il n'y a pas à surtimbrer. Il n'y a pas à adapter le jeu de pédale en fonction du registre dans lequel on est. Et pour ça, c'est assez déroutant, mais quand on passe les étapes pour apprivoiser l'instrument, alors ça devient quelque chose d'absolument fantastique. Et j'ai choisi d'enregistrer Forêt sur cet instrument aussi pour la clarté qu'il permet, surtout dans le registre médium. Alors ça peut surprendre pour un piano qui est élargi au registre grave et au registre aigu, mais en fait, la vraie richesse apportée par ces cordes supplémentaires, parce que c'est des touches supplémentaires, mais surtout des cordes supplémentaires, c'est les harmoniques. C'est-à-dire que, quelle que soit la touche frappée sur le piano, toute la résonance, en fait, va bénéficier de l'intégralité des cordes. Et ça va permettre d'aller chercher des nuances impossibles. Moi, ce que j'adore, et en fait, je pense que dans la musique de Forêt, il y a beaucoup de nuances impossibles que j'ai voulu capter à l'enregistrement. Donc ça a été, oui, certes, une déclaration d'amour envers la musique de Forêt et la volonté de faire davantage découvrir ou redécouvrir au public ce répertoire extraordinaire, mais aussi une aventure personnelle pour moi d'apprivoiser cet instrument, de le connaître davantage. Et ça a été une aventure pour moi, mais aussi pour Stéphane, parce que, évidemment, sa conception de son propre instrument a changé au travers de cet enregistrement, parce qu'il n'avait jamais été embarqué dans une aventure de cette dimension.
On sent que c'est l'une des plus grandes aventures de votre vie d'artiste. En tout cas, vous en parlez avec passion, Lucas de Bargue. On pourrait rester des heures à vous écouter parler et surtout jouer la musique de Forêt. Cette intégrale, elle vient de paraître chez Sony. On va s'y replonger dans quelques petites secondes. Vous jouerez la musique de Forêt en concert le 13 juin avec l'Orchestre National de France. Et Magena Diakoun, vous jouerez sa ballade et sa fantaisie pour piano et orchestre. Ce sont quelques-unes des rares pièces concertantes pour piano qu'il a composées.
Ce sont les seules.
Les seules, oui.
Mais c'est très intéressant parce que la ballade est vraiment une des premières pièces. En fait, il l'a orchestrée sous les conseils de Liszt. Alors, c'est très drôle quand on peut lire ça dans la correspondance de Forêt, quand il raconte sa rencontre avec Liszt, qui est déjà âgé, qui commence à jouer la ballade, qui n'y arrive pas trop et qui demande à Forêt de se mettre au piano pour la jouer. Alors, faut imaginer Forêt, jeune, jouer pour Liszt.
Virtuose.
Voilà. Et Liszt a adoré la pièce. Mais il a conseillé à Forêt d'un peu l'orchestrer. Ce que Forêt a fait, et après c'est devenu un cheval de bataille de Marguerite Long, par exemple. C'est devenu vraiment une pièce de concert beaucoup jouée, moins jouée aujourd'hui, mais beaucoup jouée par les pianistes français, notamment à la première partie du XXe siècle. Et ce qui est chouette, c'est d'avoir cette ballade et la fantaisie, qui est une œuvre de la fin, de la toute fin, où là, le langage de Forêt a complètement changé. C'est à peu près la même orchestration. C'est à peu près le même format, on est sur une quinzaine de minutes, un seul mouvement. Mais le langage est moins facile à appréhender dans la fantasy. C'est une pièce, malheureusement, qui n'a pas vraiment eu de vie hein, après la mort de Fauré, parce qu'elle est dédiée à Cortot, et Cortot ne l'aimait pas beaucoup. Et finalement, il y a très peu de pianistes derrière qui l'ont défendu, et c'est pas une œuvre qui est vraiment rentrée au répertoire. Donc c'est un vrai défi pour moi, parce que j'aimerais contribuer à peut-être faire entendre un peu de cette musique qui est très très peu connue, peut-être qu'il y ait la chance que des personnes du public s'y attachent.
En tout cas, votre coffret de l'intégrale pour piano seul met en lumière un langage absolument passionnant, saisissant. Cela vient de paraître chez Sony. On va se quitter avec des pièces tardives. Le dernier Fauré, on a commencé avec le premier Fauré, on se quitte avec le dernier Fauré. L'opus 103, un cycle de préludes qui a joué un rôle important dans votre rapport avec la musique de Fauré, dans votre révélation même de sa musique.
Ça a été le déclencheur. La découverte des préludes a vraiment été le déclencheur. Il n'y a pas d'équivalent dans le répertoire pour piano. Ce sont vraiment 9 énigmes très courtes, dans une tonalité différente. Hein, donc, il a repris là ce que Chopin avait déjà fait, mais pas du tout ce que Debussy a fait, hein, alors que c'est à peu près en même temps que Debussy a publié les siens. Là, on est vraiment sur des petites énigmes musicales où Fauré distille certains de ses poisons et secrets harmoniques en très très peu de temps dans des pièces très compactes, très resserrées, mais qui ont toute une saveur absolument très très spéciale. Donc c'est dans mon programme de concert actuellement, et je sais que moi ça me réjouit de voir des personnes du public venir me voir à la fin et dire « Ah non mais vraiment ces préludes, c'est quelque chose, c'est vraiment incroyable ». Ça a été un déclic de voir la maîtrise de Fauré dans des toutes petites formes, où en fait la dimension expressive qu'il arrive à donner à des toutes petites formes, parce que la plupart des nocturnes et des barcaroles, on est plutôt sur un format de 5-6 minutes avec les préludes, la plupart durent 1 ou 2 minutes. Et Fauré va réussir à mettre toute sa singularité, toute sa personnalité d'artiste dans chacune de ses pièces.
Et ben on va se quitter avec ces énigmes fauréennes. Merci beaucoup Lucas de Bargue. Un prélude de l'opus 103 de Fauré, un nouvel extrait de cette merveilleuse intégrale de l'œuvre pour piano, l'intégrale de l'œuvre pour piano de Fauré par Lucas de Bargue. Cela vient de paraître chez Sony. Lucas de Bargue qui sera en récital le 12 mai à Angers, puis en concert le 13 juin à la Maison de la Radio à Paris avec l'Orchestre National de France et Magena Diacoun. Magena Diacoun sera d'ailleurs notre invitée lundi soir dans le journal du classique. Merci à Amandine Legris pour la réalisation de cette émission. Demain, Léa Desandré nous racontera ses débuts dans le rôle de Médée à l'Opéra de Paris. Mais tout de suite, votre soirée se prolonge en musique sur Radio Classique avec Francis Drezel.